Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Celle du 8 mars 2022, qui correspond à la journée de la femme. Voilà. Donc on va célébrer la femme, des femmes écrivains, des femmes artistes aussi, comme une grande photographe. Et puis on est perturbé par cette guerre en Ukraine. Voilà. Alors, comme annoncé, je vais mettre à l'honneur une photographe, une philosophe, une grande philosophe que je connais depuis longtemps, Simone Veil, qui est située en Espagne. Une grande photographe, Fei Fei Cui Paulizzo, une révélation, qui a sillonné l'Islande, terre de feu et de glace, qui présente pour elle un superbe album composé d'images totalement inédites, édité par les éditions Favre Suisse, ce qui est un gage de qualité. Et puis, des romancières qui vont vous surprendre. Alors, je commence par Colonne de Adrien Bosque, aux éditions Stock. Dans Colonne, un roman qui est une enquête soigneusement menée par Adrien Bosque aux éditions, qui vient de paraître aux éditions Stock. Et dans ce roman, nous retrouvons la présence de la philosophe Simone Veil. Simone Veil, qui est arrivée en août 1936 en Espagne, âgée de 27 ans, qui voulait rallier les brigades internationales au sein de la colonne d'Urruti, sur le front d'Aragon. Elle avait pris la décision de partir se battre, car, disait-elle, on ne s'engage qu'entier. Il y va de la guerre comme de la lutte du front, comme de l'usine, parce qu'elle avait été fait un séjour en usine peu de temps avant. Car la fraternité est un élan du cœur. Pour elle, pour Simone Veil, écrire, penser, agir sont une seule et même chose. Voilà un grand programme. À ses parents, elle écrivait « Vous pouvez être tranquille, je pars comme journaliste ». En fait, elle s'engageait vraiment dans la guerre. Cette guerre, l'assassinat du lieutenant José del Castillo, un militaire de gauche, suivi du meurtre de Soleto, en représailles, avait précipité le pays dans la guerre civile. Vous savez qu'en 1936, il y a eu la guerre civile en Espagne. En 3 jours, les nationalistes s'étaient emparés de Galice et de la vieille Castille, d'une partie de la Navarre, de León et des Asturies. En Aragon, c'est Saragosse qui était tombée aux mains des carlistes et des Roquetés. Mais à Madrid, à Valence et à Barcelone, les factieux se heurtaient à la mobilisation des milices ouvrières. En fait, Simone s'était persuadée qu'avec son allure de bibliothécaire, avec des lunettes, qu'elle passerait les lignes incognito et qu'ainsi elle pourrait sauver son beau-frère Morin, qui avait disparu. Nul ne sait où il se trouvait, prisonnier ou mort, on ne savait pas, mais elle pensait pouvoir retrouver sa trace. Mais ne parlons pas espagnol, cette idée ne semblait pas du tout réaliste. Et grâce à l'amitié de Charles Ridel et de Charles Carpentier, qui vont la protéger, ils formeront un trio libre traçant la campagne pour parvenir à la colonne, fameuse colonne d'Uruti. Alors on lui a appris à manier un fusil qu'elle porta difficilement à son épaule. Elle contemplait les feuilles des arbres, le ciel bleu, mais aussi les avions, car il y avait des avions qui allaient et venaient, piquant net, puis qui mitraillaient le sol. Il fallait alors s'abriter vite, et c'est en sortant de sa cachette qu'elle oublia le feu enterré, et posant le pied sur le sol, elle plongea sa chaussure dans l'énorme bassine à frire et son huile bouillante. Voilà. Donc elle tomba de tout son long, hurlant de douleur. Malgré sa blessure grave, elle voulut continuer la lutte, le combat, mais il fallut l'évacuer et la transporter à l'abri pour essayer de la soigner, mais c'était très difficile. Même à la clinique militaire de Sitges, où elle parvient à arriver, les soins n'étaient pas vraiment au top. Heureusement, Bernard et Salma Veil, les parents de Simone, inquiets, étaient venus là en Espagne pour tenter de la retrouver. Et son père, très actif, voyant sa blessure qui ne se guérissait pas, put aller à Barcelone et obtenir toutes les facilités pour, et un sauf-conduit bien sûr, pour le retour en France, tous les trois. Donc le 25 septembre, après 45 jours pour elle en Espagne, ils passèrent la frontière sans embûche. Et sur son lit de douleur, à cause de sa jambe blessée qu'il fallait réparer en France, elle écrivit ce poème immobilisé que je vais vous lire. Des morceaux de papier composent tes murailles, des morceaux de papier t'entourent de murailles, du papier te défend le cœur et les entrailles. Donc voilà, vous voyez qu'elle travaillait même sur son lit de douleur. Et alors Adrien Bosque, dans ce roman « Colonne » aux éditions Stock, a eu la très bonne idée de joindre la lettre qu'elle a écrite à Georges Bernanos. Et voilà ce qu'elle dit. Dans cette lettre, je vous en lis quelques fragments pour vous montrer qu'elle avait médité, qu'elle avait réfléchi sur la situation de cette guerre, les événements qu'elle a vécus. Et puis, elle est déçue parce que vous allez voir, monsieur, quelque ridicule qui est à écrire à un écrivain qui est toujours, par la nature de son métier, inondé de lettres, je ne puis m'empêcher de le faire après avoir lu Les grands cimetières sous la lune. Non que ce soit la première fois qu'un livre de vous me touche, le journal d'un curé de campagne est à mes yeux le plus beau, du moins de ceux que j'ai lus, est véritablement un grand livre. Mais si j'ai pu aimer d'autres de vos livres, je n'avais aucune raison de vous importuner en vous l'écrivant. Pour le dernier, c'est autre chose. J'ai eu une expérience qui répond à la vôtre, quoique bien plus brève, moins profonde, située ailleurs et éprouvée en apparence seulement, dans un tout autre esprit. Je ne suis pas catholique, bien que ce que je vais dire doit sans doute sembler présomptueux à tout catholique de la part d'un non-catholique. mais je ne pus m'exprimer autrement. Je me suis dit parfois que si seulement on affiche bon. Depuis l'enfance, mes sympathies se sont tournées vers les groupements qui se réclamaient des couches méprisées de la hiérarchie sociale, jusqu'à ce que j'ai pris conscience que ces groupements sont de nature à décourager les sympathies. Le dernier qui m'ait inspiré quelque confiance était la CNT espagnole. J'avais un peu voyagé en Espagne, assez peu, avant la guerre civile, mais assez pour ressentir l'amour qu'il est difficile de ne pas éprouver envers ce peuple. J'avais vu dans le mouvement anarchiste l'expression naturelle de ses grandeurs et de ses tares, de ses aspirations les plus et les moins légitimes. La CNT, la FAIE, était un mélange étonnant où on admettait n'importe qui et où par suite se côtoyaient l'immoralité, le cynisme, le fanatisme, la cruauté, mais aussi l'amour. Donc vous voyez que la situation. J'étais à Paris, je n'aime pas la guerre, mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre, c'était la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière. Quand j'ai compris que malgré mes efforts, je ne pouvais m'empêcher de participer moralement à cette guerre, c'est-à-dire de souhaiter tous les jours, toutes les heures, la victoire des uns, la défaite des autres, je me suis dit que Paris était pour moi l'arrière et j'ai pris le train pour Barcelone dans l'intention de m'engager. C'était au début d'août 1936. Un accident m'a fait abréger par force mon séjour en Espagne. J'étais quelques jours à Barcelone, puis en pleine campagne aragonaise, au bord de l'Ebre, à une quinzaine de kilomètres de Saragosse. L'endroit même où récemment les troupes de Yagüe ont passé l'Ebre, puis dans le palace de Sitges, transformé en hôpital, puis de nouveau à Barcelone, en tout à peu près 2 mois. J'ai quitté l'Espagne malgré moi, avec l'intention d'y retourner. Par la suite, c'est volontairement que je n'ai rien fait. Je ne sentais plus aucune nécessité intérieure de participer à une guerre qui n'était plus, comme elle m'avait paru être au début, une guerre de paysans affamés contre les propriétaires terriens et un clergé complice des propriétaires, mais une guerre entre la Russie, l'Allemagne et l'Italie. Voilà pourquoi elle a quitté cette guerre. Mais elle a vu des choses sur la peur, sur le fait de tuer des gens. Alors il y a eu plusieurs histoires qui se pressent sous ma plume, et pour ne pas être trop long, je reviens sur celle en Aragon, un petit groupe international de 22 miliciens de tout pays pris, avec un léger engagement, un jeune garçon de 15 ans qui combattait comme phalangiste, aussitôt pris, tout tremblant d'avoir vu tuer ses camarades à ses côtés, il dit qu'on l'avait enrôlé de force. On le fouilla, on trouva sur lui une médaille de la Vierge et une carte de phalangiste. On l'envoya à Durruti, chef de la colonne, qui, après l'avoir exposé pendant 1 heure les beautés de l'idéal anarchiste, lui donna le choix entre mourir et s'enrôler immédiatement dans les rangs de ceux qu'il avait fait prisonnier. Contre ses camarades de la veille, Durruti donna à l'enfant 24 heures de réflexion. Au bout de 24 heures, l'enfant dit non et fut fusillé. Durruti était pourtant à certains égards un homme admirable. La mort de ce petit héros n'a cessé de me peser sur la conscience, bien que je ne l'ai appris qu'après coup. Voilà, donc j'arrête là le passage de cette lettre écrite, qui est beaucoup plus longue, écrite à Georges Bernanos, où elle termine en disant « Voilà, ces camarades pourtant j'aimais ». Donc elle est très déçue et je crains de vous avoir importuné par une lettre aussi longue. Il ne me reste qu'à vous exprimer ma vive admiration. Simone Veil, avec son adresse 3 rue Auguste Comte à Paris, comme si il pouvait lui écrire, lui répondre à cette lettre. Lettre qui a été envoyée ou pas, on ne sait pas, mais Adrien Bosque l'a retrouvée. Donc, un beau roman, grave, du mystère d'une vie brève, d'un engagement impossible, Adrien Bosque a tiré un roman à la ligne claire, au milieu du chaos de cette guerre civile. Il évoque une existence intense et tragique, dont le combat en Espagne fut le point de bascule. Alors, bien sûr, je n'insiste pas sur tous les éléments que l'on peut trouver dans ce livre sur cette guerre civile, que vous trouverez, chers lecteurs, chères lectrices, en lisant ce livre témoignage remarquable. Mais voilà. Donc, ça permet cette lettre de comprendre combien elle a pu observer quand même les choses malgré sa blessure et qu'elle a pu analyser cette situation, même si son engagement fut bref. Voilà, c'était Colonne, le roman Colonne de Adrien Bosque aux éditions Stock, évoquant la présence de Simone Veil en Espagne. Et je me tourne vers un deuxième livre qui est un ouvrage tout à fait extraordinaire, un superbe album composé par les photographies de Feifei Cui Paoluzzo, ouvrage édité par l'édition Favre. Vous savez, c'est un éditeur suisse et qui fait très très bien les choses, très belle impression. Et reçu grâce à Gilles Paris, un grand diffuseur parisien, que je remercie chaleureusement. Alors, Feifei, Islande. Islande de Feifei Cui Paoluzzo, donc une grande photographe, on peut en parler justement ce mardi 8 mars. Voilà. Islande, terre de feu et de glace, ce mot est déjà une aventure en soi. Alors lorsque de surcroît ce mot est mis en lumière par le regard pointu et sensible de Feifei Cui Paoluzzo, on est emporté dans un périple inédit. Car dans ces images, le plus souvent saisissantes ou insolites, la photographe incomparable transpose et transmue la matière organique insulaire en lumière éclatante. Cela devient une histoire constellée de geysers, de roches volcaniques, de pluies diluviennes sur des montagnes ocres. Les scories, ces fragments de lave rouge ou noire hérissés d'arêtes et de pointes, les scories offrent le spectacle de début originel d'avant-humanité. Et en Islande, il faut savoir attendre patiemment pour capter la lumière, ce qui ne va pas de soi sur cette terre isolée, hostile et souvent baignée par des températures négatives. Fei Fei a su très bien prêter attention à ce qui l'entourait, chaque cliché traduisant une histoire à part entière. Et c'est de toute beauté. Elle le dit elle-même. Islande, ce pays, il m'a invité dans son jardin zen. Et mon regard s'est posé sur la mousse. C'est une drôle de végétation, tendre et fraîche, gorgée d'eau. J'y ai posé mon visage, odeur de terre mouillée et de pluie. Et puis je regarde les champs de lave, ce sont des pierres qui ont vécu, blessées et consumées. Je regarde les glaciers, montagnes blanches et féeriques qui brillent sous le soleil. Mon regard se pose ensuite sur les fjords. L'océan arrive lentement, sûrement et sans arrêt. Et puis les côtes, la mer moutonne, les vagues s'enchaînent. Je regarde plus loin encore, jusqu'au croisement du ciel. Cette immensité, où commence la terre, où s'échoue la mer. Mon regard sur les falaises, les oiseaux nichent, s'envolent, j'entends les mélodies des oiseaux qui chantent pour la vie, pour l'amour. Mon regard sur l'est, l'ouest, le sud, le nord, partout, c'est la nature qui triomphe. La beauté est parfois brutale et énergique, si pure et poétique, qui laisse des taches d'encre sur moi. Cette envie puissante de conserver ces moments magiques, je les ai capturés avec mon objectif pour vous, pour moi, et c'est signé Fei Fei Cuir Paulizzo. Voilà. Alors, il y a aussi dans ce superbe livre, ouvrage magnifique, des images de chevaux et de personnes habitant sur cette terre de feu et de glace. Il y a aussi une carte qui situe tous les lieux photographiés. Donc c'est précieux comme carte, et les légendes. Alors ça, c'est vraiment les légendes ou commentaires de ces 185 images inoubliables, 185 hein, dans ce superbe album. Alors on va écouter maintenant un peu de musique avec une grande dame du jazz. Pour moi, c'est Diana Krall ou Kroll. On va écouter Wonderful, voilà.
It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. It's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous, that should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise. What I love to see, my dear, it's four-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, marvelous that you should care for me.
Oui, si j'aime la musique classique, j'aime aussi le jazz et particulièrement la voix de cette chanteuse, de cette grande chanteuse pour moi. J'espère que vous avez su apprécier. Alors maintenant, je vais parler de romans. Là, j'ai parlé d'une philosophe, j'ai parlé d'une grande photographe, mais maintenant, le troisième livre est écrit par une grande romancière, Hélène Dorion, avec un très beau titre qui s'appelle « Pas même le bruit d'un fleuve ». Hélène Dorion, une grande romancière québécoise. Le mot et le reste est son éditeur pour la France, parce qu'elle avait écrit ce livre au Québec, qui a eu un très grand succès. Et elle dit elle-même, elle remercie le mot et le reste d'avoir pensé éditer en France ce roman, « Pas même le bruit d'un fleuve », ce qui donne une nouvelle vie à ce roman, à ce beau roman, beau et pathétique, c'est ce que je trouve. Si je dis qu'il est pathétique, ce roman, c'est parce qu'il parle d'un thème inhabituel, celui de naufrage, naufrage réel ou imaginé, survenant à la suite d'une tragédie maritime, comme celle de l'Empress of Ireland, abordé en 1914 par un charbonnier norvégien, le Storstad, dans lequel il est entré en collision. Il sombre et périt corps et bien en l'espace de 10 minutes, entraînant au fond de l'abîme un millier d'existences humaines. Environ, on ne sait pas très bien, 350 personnes traumatisées ont été recueillies et transportées à Rimouski. C'est le nom de la ville ou du port. Hélène Dorion va bâtir son roman à partir de cette histoire un peu oubliée que l'on redécouvre en même temps qu'Anna, l'héroïne de ce roman, celle qui parle et qui aimerait bien mieux connaître sa mère qui s'appelle Simone. La questionner sur sa jeunesse qu'elle passa à Kamouraska, au sud du Québec, à Kamouraska, de ce temps avant la tristesse, car elle trouve que sa mère est un personnage triste, de ce temps avant mon père, car entre Simone et Adrien, son père, rien ne semble plus aller. Et c'est en découvrant parmi les effets de sa mère, récemment décédée, des carnets, photographies et coupures de journaux, qu'elle décide de suivre le cours du fleuve jusqu'à Kamouraska, de faire toute seule ce voyage qu'elle aurait rêvé faire avec sa mère jusqu'à Kamouraska, pour tenter de rattacher son histoire à celle de cette femme devenue silencieuse, absente de sa propre vie. Et en remontant le long du Saint-Laurent, Anna va retrouver la trace du premier amour, le vrai, qui était vraiment très fort, inouï, de sa mère avec un inconnu, mais qu'elle va apprendre un petit peu à connaître. Et retourner, elle retourne jusqu'en 1914, au moment du naufrage. Elle apprend alors que les femmes de sa famille sont unies par une même tragédie et que les survivants sont parfois de vrais naufragés. C'est pour ça que j'ai dit que ce livre était pathétique, car il y a en particulier un naufragé qui aura du mal, bon, qui va grandir, qui va devenir l'amant de Simone, mais ne peut oublier d'être un naufragé survivant et que ses parents sont morts, peut-être par sa faute, parce que son père, un peu dans un geste désespéré, l'a propulsé vers le haut du bateau. Alors sur cette route qui la conduit vers elle-même, Anna devra composer avec le poids des secrets et des douleurs enfouies que même les eaux chargées du fleuve n'ont pas su emporter. Je vais vous lire un passage de ce beau roman sur cette quête d'un drame qui a été à l'origine d'un désastre affectif de la part de sa mère pour Anna. Dans cette quête, dans cette recherche, elle est accompagnée par Juliette, une amie. Si elle, c'est plutôt les mots qui la touchent. Elle, Juliette, c'est la peinture, c'est une grande artiste. Alors nous avons étalé dans un chapitre, il y avait sur l'eau un peu plus de lumière. Voici la lumière qui va émerger. Nous avons étalé sur l'un des deux lits de la chambre les articles de journaux. Ils concernaient le naufrage de l'Empress of Ireland. Encore aujourd'hui, on ne s'en tape pas sur le nombre exact de morts dans cet accident. Et le 29 mai 2014, on a souligné à Sainte-Luce-sur-Mer le centenaire de la catastrophe. À 1h55 du matin, les cloches ont résonné dans les églises de Rimouski et de Sainte-Luce. Plusieurs descendants des disparus étaient sur place. Je n'y ai pas prêté attention alors. Mais parmi les descendants des victimes, les arrière-petits-fils des commandants de l'Empresse et du Storstadt, le navire qui a embouti l'Empresse dans une scène d'horreur et de chaos, ils sont allés juste au-dessus de ce cimetière marin où reposent les restes de quelqu'un sans ans, 500 corps, dont plusieurs membres d'équipage. Parmi eux, des matelots d'à peine 20 ans sont morts cette nuit-là, pour la plupart venus d'Angleterre, où se dirigeait l'Empresse, ils devaient repartir en Angleterre. Là-bas, ce même jour de 2014, donc 100 ans après, une messe a été célébrée à laquelle on assistait plus de 50 familles de victimes dans une église bondée. Oui, dans les naufragés, il y a aussi Jeanne, qui est la mère de Simone, qui était vraiment très amoureuse d'un soldat fiancé. Ils devaient se marier. Ils ont vécu vraiment un grand amour. Malheureusement, ce soldat qui est parti à la guerre de 14 a été tué en France. Donc, la mère Jeanne se sent naufragée de ce deuil, voilà, de cette mort et de son amour incomplet, puisqu'elle n'a pas pu le continuer. Alors voilà, plus la foule s'est déplacée vers le monument à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie cette nuit-là et dont les noms ont décliné au bout de l'horizon jusqu'au silence. On a lu la liste des disparus, les noms prononcés un à un faisant reparaître le visage de chacun. Longtemps, on a oublié cette tragédie maritime, pourtant l'une des plus importantes du début du XXe siècle, avec celle du Titanic dont je vous ai parlé et du Lusitania, sans doute parce qu'elle s'est produite 2 mois seulement avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce qui l'a rapidement éclipsée. Certains soutiennent que sur les 2200 passagers, 1513 sont morts, d'autres avancent. Le seul chiffre qui ne change pas est celui des enfants. Sur les 138 enfants qui étaient à bord, 5 ont survécu. Alors, Juliette et Simone, parmi les coupures découpées dans la boîte de Simone, il y a la page d'un journal de Québec où l'on énumère le nom des personnes dont le cadavre avait été repêché et ramené au quai de Rimouski, transformé en morgue ce jour-là. Voilà. Et alors, il y avait le nom des individus dont on n'avait jamais retrouvé la dépaille. Au total, près de 1500 personnes sur 2 grandes pages du journal. On devrait lire la liste, me dit Juliette, pour voir si on en connaît. Une amie, c'est souvent celle qui pointe les angles morts, qui nous cache ce qu'on doit regarder. Elle nous plonge la tête dans une réalité à laquelle on préférerait échapper, voilà. Donc ils vont faire cet effort, même si j'appréhende la démarche, c'est la seule chose à faire avec ce journal. Au milieu de la page de gauche, je crois reconnaître 2 noms, Arthur Corrigan et Emma Corrigan et Anthony Corrigan. En fait, Anthony va s'appeler Antoine, et c'est l'enfant du naufrage qui a survécu. Voilà, je voulais vous lire ce passage-là. C'est vraiment un très beau roman qui est un drame. Je conclus par un poème. Hélène Dorion adore la poésie. Le titre même de ce roman, Pas même le bruit d'un fleuve, est tiré d'un poème de Yves Bonnefoy. Elle aime la poésie du Québec, mais aussi celle venue de France. Et elle joint un poème de Kathleen Rennes, un très beau poème que je vais vous lire pour conclure ce beau roman. Comme une flamme qui se penche et bondit, comme des vagues de sons se succèdent, poignantes comme le souvenir du premier amour, ce qui est passé, ce qui est perdu, ce qui jamais ne sera entrevu, entre l'avenir, c'est pas un avenir, c'est là, ce qui est à venir et le disparu. Voilà, je termine ce beau roman sur ce beau poème de Kathleen Rennes. Et j'enchaîne avec un autre beau roman que je considère un peu comme une symphonie, parce que il s'étend sur plusieurs pays. Huit battements d'ailes, ça s'appelle, c'est le titre. Au cours de ce confinement, de ces différents confinements, de cette pandémie du Covid-19 qui va se répandre sur le monde avec beaucoup de victimes, c'est Laura Trompette qui a écrit ce roman, Huit battements d'ailes, comme huit personnages féminins. Voilà. Et aux éditions, qui vient de paraître aux éditions Charleston. Comme elle le dit en avril 2020, plongée comme beaucoup de Français dans une solitude forcée, elle a ressenti le besoin de transformer toutes les émotions ressenties en quelque chose, de s'alléger de leur poids, mais aussi de poser un regard sur le monde qui avait soudain changé de visage. Elle avait la certitude que si la règle était la même pour tous, dans les pays alors les plus touchés, l'impact allait être bien différent selon que l'on soit riche ou pauvre, né ici ou là-bas, jeune ou vieux. Ce qui donne ce roman symphonique où la femme tient la première place. Donc c'est bien que j'en parle. Dans cette période troublée, l'exacerbération de la violence due à l'enfermement, on en a parlé même en France, des couples ou des familles qui s'entre-déchiraient parce qu'enfermés dans un petit appartement. Et les ressorts insoupçonnés que l'humain peut trouver en lui au cœur du chaos. Alors, sont donc huit dans ce roman, répartis dans le monde. Il y a la première, Magali Dubois, une conductrice de poids lourd sur les routes de France qui ira jusqu'en Espagne retrouver une autre femme dont je vous parlerai. Il y a la porte-parole de la Maison Blanche. Il y a aussi une prisonnière en Chine, alors qui est en fait un animal qui sera dans la province de Yunnan. Elle est un numéro 90-72, une ours torturée le corps esquinté par les prélèvements de la bile. Elle arrive pourtant à survivre et elle va être libérée par deux femmes, deux militantes, lors du premier déconfinement, car en Chine, après les hospitalisations forcées, il y a eu un déconfinement. Et donc, ces deux femmes militantes qui aident vont l'aider à sortir de sa cage, de cette prisonnière, de lui trouver un nom et de la rendre à la vie naturelle. Donc, un très beau témoignage. Il y a aussi Kirsten, femme au foyer, c'est en Allemagne. Qui vit sous l'emprise de son mari, qui devient une brute. L'air extérieur, plus respirable que celui de leur appartement, l'appelle. Elle voudrait sortir de cet appartement. Le salut d'un moment de liberté inestimable. Pour y accéder, elle doit se montrer extrêmement précautionneuse. Mais ses mains tremblent et l'anxiété enfle dans son corps. Elle perd le contrôle de ses doigts. Le trousseau s'écrase sur le sol. Elle se fiche, il y a le bruit de ce trousseau qui s'écrase sur le sol. Elle voit son enfant à côté d'elle, son enfant qui est mort. On ne sait pas trop si c'est après la naissance, mais cet enfant muet et patient qui vit à côté d'elle, elle ne peut pas l'oublier, cet enfant. Elle tend l'oreille, rien. Elle s'accroupit pour ramasser l'objet. Soudain, la voix de son mari perce le silence. C'était quoi ce bordel encore? Et elle aura beaucoup de mal à échapper à l'emprise de son mari. Il y a aussi Hayley, rockstar en Angleterre, à Brighton. Elle vit très bien ce confinement parce que c'est une rockstar, elle gagne très bien sa vie, devenue riche par son métier, et elle veut aider ceux qui sont dans la détresse. Dans l'effervescence de son monde habituel, il n'y avait que peu de place pour pâtisser à l'italienne, à Noël, pour un anniversaire, un jour de fête et encore. Depuis leur naissance, elle a partagé avec les enfants des moments exceptionnels. Mais les choses simples, les plaisirs du quotidien, les petits riens qui balisent les vies ordinaires, peinait à s'inscrire dans son emploi du temps. Donc elle va profiter du confinement pour mieux s'occuper d'eux. Elle s'en régale aujourd'hui, peut-être est-elle à contre-temps, peut-être qu'elle n'a pas le droit de s'attarder sur une joie dans tout ce lait, dans une joie offerte par un raz-de-marée. Peut-être qu'il est indécent de noter le beau dans tout ce lait. Et pourtant, elle ne laissera rien s'échapper dans la noirceur de la réalité. Je voulais vous parler aussi de Rafaela, qui est l'infirmière en Espagne, qui fait très très bien son métier difficile en cette période de confinement avec tous ces décès. L'odeur des pins portée par l'air frais des montagnes a quelque chose d'apaisant dans la montée d'adrénaline du moment. Les rues sont plus propres, voilà, elle parle des rues propres, que jamais, mais jamais désertes. Le miaulement d'un chat, une porte qui claque, les cabrioles d'un rat dans les poubelles, la conversation d'une famille qui dîne, fenêtre ouverte sur le trottoir, les battements d'ailes d'un oiseau dans un feuillage, tous les bruits qui se confondent d'ordinaire à une ambiance sonore dense et continue, sont désormais identifiables. Nous aussi, en France, on a pu voir des villes, des rues désertes à cause du confinement. D'un pas certes décidé, elle essaie de se mouvoir avec légèreté. Plus elle sera aérienne, moins elle attirera l'attention. Et elle va accueillir Magali Dubois, parce que cette Magali Dubois, dans son camion à l'arrière, il y a une personne qui s'est cachée dans sa couverture à l'arrière, qui est en fuite, qui est une prostituée, qui a su profiter de ce confinement pour s'échapper et qui veut aller jusqu'en Espagne retrouver un élément de sa famille. Et donc, voilà. Et Magali la porte et va rencontrer Raphaël pour essayer de donner un destin à cette prostituée échappée. Et puis Sahana, autre personnage, elles sont huit, hein, mais il y a Sahana, orpheline en Inde. Elle a appris très tôt à troquer la magie dans la nuit avec sa mère, sa sœur et puis ses frères. Chacun à sa manière fuyait l'homme de la maison. Enfin, maison, c'est plutôt un taudis. Un père plus dur que la pierre, peut-être détraqué par la misère, ou peut-être pourri dès la naissance, elle ne le saura jamais. Conducteur de rickshaw, sort de pousse-pousse à moteur, il se déglinguait les poumons toute la journée dans l'air saturé des microparticules. Épuisé par cette vie, il rentrait prêt à se venger sur les seuls êtres qu'il aurait pu aimer. Alors voilà pourquoi il frappait sa femme, ses enfants. Donc Sahana rêve de partir avec un compagnon qu'elle a trouvé, et elle voudrait lui qui va être adopté par Hailey, rockstar en Angleterre, mais qui en fait Sahana voudrait bien l'accompagner aussi pour connaître une autre vie. Et puis la dernière des huit personnes, c'est Lucia Rossi, une dame âgée qui est à Rome en Italie. Donc on parle du confinement en Italie à travers elle. Elle est mère de trois filles, dont Aile, qui doit sur Internet assister à un concert qui est la mémoire. Voilà. Et ce concert, ben, c'est Aile qui donne un concert à la télévision. Voilà, pour gagner de l'argent. Donc, je voulais vous parler de ce roman de Laura Trompette, Au battement d'ailes, qui vient de paraître chez Charleston. A priori, dans ce roman, toutes ces femmes, tout les sépare, ces huit femmes. Et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie se lier et devenir solidaires. Elles communiquent grâce à Internet et puis au téléphone, on s'envoie des messages, on communique, on arrive, malgré le confinement, les confinements, on a pu communiquer, continuer à s'entretenir et communiquer. Voilà, donc ce roman est un roman puissant, au rythme haletant. On passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, qui enchante vraiment les lecteurs et qui a enchanté la critique. Je peux vous le dire. Donc, on pourrait terminer ce programme, ou alors peut-être un coup de cœur, un dernier coup de cœur, un cinquième. C'est de Laurine Roux, une immense sensation de calme, qui était éditée par son éditeur, les éditions du Sonneur, Le Sonneur, mais qui vient de paraître en folio, dans la collection Folio, avec une très belle couverture de Saint Serge le Bâtisseur. Donc je crois que c'est un monastère, voilà, qui se trouve en pleine montagne, avec la neige, avec un ours aussi en présentation. c'est un roman. Je vous avais parlé de son, enfin du précédent livre que j'avais lu d'elle, qui parlait de la guerre espagnole. Née en 1978, Laurine Roux vit dans les Hautes-Alpes où elle est professeure de lettres modernes. Son écriture belle et habitée par la sensualité de la nature, qui peut être changeante avec des tempêtes, découverte avec l'autre moitié du monde. Eh bien, j'ai voulu lire son premier roman, qui est celui-ci. Une immense sensation de calme, une quête. Laurine Roux, Folio, avec des sonorités slaves pour les noms des personnes. Donc, cela dure un instant et de longues minutes, je ne saurais le dire. Le regard d'Igor abolit mon être, une histoire d'amour, très belle, très simple, mais très belle. Partout dans mon corps, mille particules soulèvent mes membres, et c'est à la fois de la peur et de la glace, du miel et de la lavande. Alors, au cœur d'une étendue enneigée, une jeune fille rencontre Igor, un autre aussi étrange que magnétique. Presque sans échanger un mot, elle va le suivre à travers une nature souveraine et hostile, portée par ce que la jeunesse a d'insolence. Mais plus elle semble proche d'Igor, plus le mystère qui l'entoure s'épaissit, jusqu'à cette tempête, qu'une tempête les précipite tous deux dans la tourmente, révélant les légendes et les souvenirs de ceux qui illuminent le côtoiement permanent de l'amour, de la mort et de l'amour. Un livre envoûtant porté par une histoire d'amour extraordinaire, vraiment. C'est une très très belle écriture qui est pour moi un coup de cœur, c'est l'écriture de Laurine Roux. Et je termine là-dessus. Alors, à bientôt, au mois prochain, et bonne lecture et bonne lectrice. Voilà, pour les lectrices, les femmes, pour la journée de la femme. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.